Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, embourgeoisement, gentrification, ce sont les deux thèmes du jour. Un incident récent survenu à Montréal qui est très parlant sur la réaction anti-gentrification qui se manifeste un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord et dans nos villes. Un incident s'est produit à Montréal récemment. Alors, une petite boutique d'alimentation, une petite épicerie a été envahie un peu manu militari vers l'heure de la fermeture par une trentaine d'individus masqués, militants anti-gentrification, militants anti-bourgeoisement. Et ces gens ont confisqué des produits fins de cette épicerie fine, notamment des saucisses, ce qui rendait l'incident un petit peu burlesque. Et donc, ils ont imposé leur présence à la seule employée qui était là peu avant la fermeture. Et ils ont laissé un manifeste, un tract qui condamnait l'embourgeoisement d'un quartier en particulier, à savoir Saint-Henri, qui subit une pression spéculative constante depuis certaines années, comme bien d'autres quartiers à Montréal et dans nos villes nord-américaines. Alors, Jean-Christophe, tu as eu connaissance de cet événement. Tu es bien sûr très au fait des questions de gentrification et d'embourgeoisement. Tu es un spécialiste de l'aménagement du territoire et un architecte. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, dans la foulée de cet incident qui nous donne le prétexte pour parler de gentrification?
Écoutez, d'abord, si l'objectif des gens en question était de ramener la problématique de l'embourgeoisement à l'avant-plan, c'est réussi.
Oui.
Et à ce niveau-là, c'est tant mieux. Par contre, dans quelle mesure est-ce que leur cible était un peu un symptôme qui lui-même, comment dire, l'objet de leur attaque était peut-être pas nécessairement ce qui est à ils ne sont pas attaqués à la racine du problème, disons.
D'accord. Donc, on peut peut-être citer un petit peu quelques faits entourant cet incident qui méritent d'être mentionnés. Le commerce en question est actif au sein de la communauté. Le propriétaire est... c'est ce qu'indiquent les médias, à tout le moins, est un électeur du Parti social-démocrate québécois, Québec solidaire. Donc, c'est comme si l'extrême-gauche s'était attaquée à la gauche de la gauche au Québec, ce qui est un peu particulier comme situation. Je sais pas si tu as vu la chose de cette façon.
Oui et non, dans le sens que est-ce que les gens, les gens qui sont attaqués au commerce cherchaient un symbole auquel, oui. Cherchaient un symbole marquant du phénomène, là.
Oui.
Donc probablement qu'ils ne connaissaient pas les détails des
positions
politiques que défend le propriétaire.
Parce que c'est vrai que lorsque la gentrification se déclare dans un quartier, l'un de ces symptômes, ce sont les petites boutiques fines avec des produits fins qui sont souvent très chers. Et c'est ce que leur manifeste soulignait. Saint-Henri est un désert alimentaire pour ceux qui n'ont pas d'argent ou qui ont des revenus faibles ne peuvent pas se payer ces produits fins et cette nourriture bio nec plus ultra.
Exactement. C'est que quelle que soit l'affiliation politique du propriétaire, il reste que et quelles que soient les méthodes utilisées pour dénoncer le phénomène, il reste que l'enjeu qu'il dénonçait est très réel et cette épicerie-là, en quelque part, malgré elle et même si c'est pas son intention, participe au phénomène.
Oui.
Comme tu dis, le problème, c'est que il y a des gens qui se font de façon très réelle exclure peu à peu du territoire qu'ils les ont vus, qu'ils habitent en fait,
exact.
Et qui était leur territoire.
Et tu parlais des racines du problème. Comment
c'est ça.
Peut-on s'attaquer aux racines du problème?
Oui. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas réduire la question au fait d'approuver ou non de, du geste qui a été posé, parce que cette espèce de dualité sur laquelle se rabattent constamment les médias, de savoir si on doit condamner le geste ou non, c'est une façon d'évacuer complètement la problématique. C'est ce que les médias ont systématiquement tenté de faire pendant tout le mouvement étudiant au Québec en 2012, c'était de sélectionner des actes de vandalisme et de dire qu'il fallait qu'on se positionne comme étant pour ou contre ces actes de vandalisme. Or que le fait est que quand il y a un certain contexte social et économique qui règne, on sait que ça va entraîner des actes motivés par la frustration.
Si tu étais au gouvernement municipal ou encore au gouvernement provincial et même fédéral, pourquoi pas, qu'est-ce que tu préconiserais en tant que spécialiste des questions d'aménagement du territoire?
Ben voilà, le problème, c'est que là, on va parler des racines du problème, justement. C'est que le fait est que l'élite politique et surtout municipale bénéficient elles-mêmes plus ou moins du phénomène d'embourgeoisement. Donc, je sais même pas s'il y aurait un intérêt pour eux d'essayer de l'enrayer.
Quand Mais, tu dis bénéficier, tu veux dire à travers des taxes?
Non, c'est que... à travers ça, on parle souvent du fait que oui, quand il y a un nouveau... chaque nouvelle construction amène des revenus à la ville là, sous forme de permis et de taxes foncières.
D'accord.
Et puis l'augmentation de la valeur des taxes foncières, de la valeur foncière de quartiers qui sont embourgeoisés aussi augmente les revenus de la ville.
Voilà.
Mais aussi que de façon générale, les politiciens qui sont dans la classe politique est souvent très proche de la classe qui mène les opérations qui visent à bénéficier de l'embourgeoisement.
Oui, alors ils ont pas d'a priori solidaire envers les gens qui souffrent de pauvreté et de difficultés de logement.
Exactement, et de façon générale, il y a un conflit d'intérêts. Donc moi, je pourrais proposer toutes sortes de choses assez évidentes, mais le fait est que il y a un contexte politique qui fait qu'il y a peu de chances qu'elle soit appliquée.
Rêvons un peu.
Oui,
donc.
Qui est généralement admis.
Oui.
Et même des chercheurs américains sur le sujet et britanniques le disent. Là, c'est pas vraiment seulement l'analyse qui provient de régions qui pourraient avoir une pensée un peu plus de gauche. C'est que il faut contrôler la valeur foncière. Il faut s'assurer qu'il y ait une accessibilité au logement accru à travers des programmes de logement social, et il faut qu'il y ait instauré un contrôle des loyers, des baux commerciaux, des loyers commerciaux. Parce que un des problèmes de l'embourgeoisement, c'est justement que quand la valeur foncière augmente à un certain niveau, et donc que les loyers augmentent en même temps, la petite épicerie de quartier qui vend des petits volumes de produits qui n'ont pas nécessairement une forte valeur ajoutée ne peut pas survivre. Et c'est pour ça que ils sont remplacés par deux autres types de commerces, des commerces qui peuvent vendre avec une valeur ajoutée accrue, et sinon des chaînes.
Mmh. Ah oui, donc il y a un cycle, qui s'opère, mais la petite épicerie peut hausser ses prix aussi à mesure que la pression s'exerce sur elle.
Voilà, elle hausse ses prix, elle change le type de produit qu'elle vend, mais à partir de ce moment-là, il y a une partie de la population du quartier qui se retrouve de fait un peu exclue.
Et c'est comme ça que...
Il n'y a plus accès à ce service-là.
Voilà, et c'est comme ça que se créent des déserts alimentaires. En fait, le désert existe bel et bien, et il est réel, même si on a plusieurs devantures avec des fruits, des légumes, de la viande. Les prix excluent les gens et donc créent ce force les gens à se relocaliser quelque part.
Ouais.
Ce phénomène-là est mondial, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Je veux dire, toutes les grandes villes sont frappées par ce phénomène-là. Bon, je sais pas toutes comment elles réagissent, mais à Londres, c'est un problème énorme.
San Francisco,
et puis Vancouver aussi.
Ce qui est assez amusant, j'ai lu récemment que des gentrificateurs eux-mêmes, dans certaines situations, deviennent gentrifiés. C'est-à-dire que dans une première vague, ils ont bénéficié de prix abordables,
oui.
Mais ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils ont subi le même sort qu'ils avaient fait subir à d'autres.
Et
à San Francisco, par exemple,
La
fameuse vague .com, la bulle .com des années 90, il y a des gens qui étaient dans le Mission District, qui est très branché. Ils ont profité des prix très bas. Ils se sont installés. Et aujourd'hui, ils se sont fait exclure parce qu'il y a une nouvelle vague encore plus riche qui les exclut.
Oui, absolument. Et il faut dire, et c'est là peut-être qu'on peut critiquer l'action ou la cible de l'action, même si, comme je disais, en quelque part, c'est que souvent la première vague n'ont même pas l'intention de gentrifier un quartier, par exemple.
Ah oui, c'est...
La première vague, c'est souvent, comme tu disais, c'est pas des gens qui ont des énormes capitaux à investir, c'est des petits entrepreneurs qui cherchent une petite occasion d'affaires et qui vont souvent partir des commerces qui vont être perçus comme étant cool, mais dont les prix sont même pas nécessairement si exorbitants.
Oui, c'est une nuance qui est vraiment pertinente, absolument.
Et comme ceux-là vont être les premières victimes ensuite de la poursuite de la vague de gentrification, parce que quand les propriétaires se rendent compte que il y a un regain d'intérêt pour leur quartier, ben ils augmentent les loyers, et puis en même temps tout d'un coup ça veut dire que le marché immobilier s'empare un peu du quartier, donc t'as des grands joueurs qui vont essayer de racheter par exemple sur la rue Masson dans un autre quartier à Montréal qui est en train de s'embourgeoiser, 50% des immeubles ont été rachetés le long de la rue ont été rachetés par une très grande compagnie de gestion immobilière augmenté les loyers de 50%, et justement, tous ces commerces de la première vague de gentrification se sont eux-mêmes retrouvés gentrifiés. Et maintenant, il y a un désert de vitrines sur la rue Masson parce que, en fait, ils ne pouvaient, c'est comme si ce gestionnaire immobilier a vu un peu trop gros et a surestimé le montant duquel par lequel ils pouvaient capitaliser sur cette vague de gentrification.
C'est assez éclairant de voir que le cycle peut se terminer par une sorte de destruction, de nécrose immobilière.
Exactement, du tissu urbain, oui. Une nécrose du tissu urbain qui fait que, justement, l'offre s'effondre. On peut imaginer qu'il y aura une correction éventuellement, mais le problème, c'est aussi que ce phénomène-là qui se passe à l'intérieur des villes est couplé à un développement qui se poursuit en banlieue où l'offre commerciale et des services se déplace de plus en plus.
Jean-Christophe Leblon, c'est très édifiant, c'est très informatif. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions sur la gentrification et l'embourgeoisement, phénomène qui se déclare un peu partout dans nos villes. On pourra peut-être, dans une prochaine conversation, parler de Vancouver ou de Victoria. On suivra attentivement les nouvelles concernant l'embourgeoisement dans ces deux villes. Et je vous inviterai alors à attaquer le sujet à nouveau.
Ben, parfait, merci beaucoup, ça me fait grand plaisir.
Merci beaucoup, Jean-Christophe.